Vous êtes sur RTL.
RTL.
Les écrivains, on a une drôle de vie parce qu'on a une vie en piquant des choses à droite à gauche, en écoutant les gens dans le métro. Là, je suis venue en métro.
Le journal inattendu.
Quand on écrit, quand on fait un film, quand on fait un disque, on sait bien qu'il y a des moments où on est meilleur que d'autres et on sait pas, non, honnêtement, on sait pas. Mais surtout, je pense qu'on met sa sensibilité à soi. Oui. Je mets 2 ans pour écrire un livre. Hein. Pendant 2 ans, j'ai pensé qu'à ça, j'ai travaillé que là-dessus et puis j'ai mis tout ce que je pouvais.
12h30, 13h30.
Eugène et moi, c'est à la fois un voyage, un périple incroyable avec plein d'aventures et un périple intérieur avec une découverte de soi.
Le journal inattendu sur RTL avec Catherine Pancol et Ophélie Meunier.
Bonjour Catherine Pancol.
Bonjour.
Bienvenue,
Philippe.
Je vous voyais très attentive à vos paroles.
Oui, je parle très vite.
Dans l'introduction. Ça va. Merci d'ouvrir cette année 2021 pour le journal inattendu. On est ensemble 1 heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission. Votre dernier roman, Eugène et moi, à l'image de cette année 2020 remplie d'imprévus, vous n'aviez pas prévu de l'écrire. Et puis pendant le premier confinement, un message de votre ami Eugène vous a donné envie de prendre la plume. Entre le Mexique et Saint-Tropez, avec Eugène, vous avez fait les 400 coups. On se dit que vous étiez un peu dingue, hein, toutes les deux. Et en même temps, on vous remercie car en ces temps moroses, vos aventures nous changent les idées et vous abordez aussi des questions profondes de notre société dans ce livre. D'ailleurs, dans cette émission, on découvrira votre regard sur l'actualité, votre reportage inattendu et on accueillera votre invitée, Frédérique Martz, cofondatrice de l'association Women Safe, car vous êtes engagée auprès d'elle pour soutenir les femmes victimes de violences conjugales. Grâce à votre livre, Eugène et moi, on en sait un peu plus sur celle que vous étiez à 20 ans, mais pour mieux vous connaître aujourd'hui, je vais vous demander de vous prêter à l'exercice de l'autoportrait. C'est un rituel au début du journal inattendu. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Alors Catherine Pancol, qui êtes-vous?
Alors, je m'appelle Catherine, comme Catherine Pancol, et je suis écrivain, comme Colette ou Pagnol. J'aime poser des mots, jouer avec, faire des phrases qui ne ressemblent à personne. J'aime observer le quotidien, le décortiquer, le renifler, le déshabiller, mettre les gens tout nus. J'aime aussi raconter des histoires banales qui commencent très bien et finissent très mal, ou le contraire. Mon premier livre, en 79, s'appelait « Moi d'abord », et le dernier « Eugène et moi ». C'est bizarre, ça. Entre-temps, il y a eu des crocodiles, des tortues, des écureuils, des muchachas et plein d'autres encore. Voilà. Vous me connaissez ou pas, en tout cas, on va passer 1 heure ensemble et on va faire connaissance.
Mais avec grand plaisir, vous avez eu l'humilité de ne pas dire que vous avez vendu quand même des millions d'exemplaires de vos livres. D'abord, les grands titres de l'actualité de ce samedi. Depuis 18 ans, le 9 janvier, à Guermantes, soutien et proches de la famille d'Estelle Mouzin se réunissent en mémoire de la petite fille disparue. Alors que l'enquête doit se terminer dans quelques mois, document exceptionnel sur RTL, Éric Mouzin, le papa d'Estelle, était l'invité de Stéphane Carpentier ce matin, extrait de cette interview dans un instant. 10 départements supplémentaires soumis à un couvre-feu à 18h. L'annonce devrait être officialisée pour tous dans les heures qui viennent. Et c'est donc le cas pour la Côte d'Or. Nous serons dans quelques instants avec François Sauvadet, le président du conseil départemental. Week-end de foot important, c'est la fin de la phase aller de la saison de Ligue 1. Qui sera champion d'automne? 10 matchs à suivre ce soir, tous programmés à 21h et à vivre en direct sur notre antenne dans RTL Foot. Et puis cette histoire incroyable, une famille française vient d'avoir un 3e enfant avec cette particularité. Les 3 frères et sœurs sont tous nés le même jour, le 6 janvier, à 2 ans d'intervalle. Nous avons rencontré leur papa. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour. Eh ben, on a de la neige sur les Pyrénées, c'est ce qui déborde d'Espagne forcément. Alors évidemment en moindre quantité. Pour autant, on a des chutes de neige jusqu'en plaine ce matin dans le Gers ou encore dans les Hautes-Pyrénées, en Haute-Garonne, dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales. Mais le gros temps, c'est surtout en Corse. Aujourd'hui, on aura de grosses pluies orageuses, d'abondantes chutes de neige en montagne, avec un fort risque d'avalanche d'ailleurs à partir de cet après-midi et pour la nuit prochaine. Ailleurs, on s'en sort pas trop mal. Alors certes, il y a encore quelques brouillards qui traînent vers les Hauts-de-France. Ça va tarder à se lever, mais globalement, le soleil devrait l'emporter. avec des températures un peu réfrigérantes quand même. 2 degrés à Strasbourg et à Grenoble cet après-midi, 3 degrés sur Abbeville et Limoges, 4 à Paris et Tours, 6 à Perpignan comme à Cherbourg et 8 à Marseille.
Et vous parliez au début de la neige hein, en Espagne, c'est suffisamment exceptionnel pour le noter, peut-être même historique. Madrid est actuellement sous la neige, l'aéroport est fermé pour le moment. Alors évidemment, la circulation sur les routes, les transports en commun sont fortement perturbés. Et pour ceux comme Salim qui avaient prévu de passer un petit week-end à Madrid entre copains, les plans sont bouleversés. Il est au micro d'Aurélia Valarier.
Ouais, franchement, on va en profiter, hein, surtout que nous, on est de Paris, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de neige. Donc on va en profiter un peu avant de rentrer. Hein. Qu'on a vu des gens faire, par exemple, de la luge. Bon, après, ça les amuse, etc. On a vu des gens faire du ski aussi. Là, franchement, on n'a pas pris de ski avec nous. On n'était pas du tout préparé à ça. Donc, on va voir s'il y a moins de possibilités de trouver, je sais pas, une luge quelque part. Ou... Sinon, on va faire une bataille de boules de neige. Hein.
Du ski à Madrid. Donc, des propos recueillis par Aurélia Valarier pour RTL. Merci Valérie, depuis Paris.
Oui.
On vous retrouve à 18h.
À ce soir.
Car à 13h, c'est vous, Catherine Pancol, qui faites la météo.
Le journal inattendu sur RTL.
À la une, c'est donc ces nouveaux départements qui attendent eux aussi d'être soumis à un couvre-feu dès 18h. Je rappelle que ce couvre-feu avancé est déjà en vigueur dans 15 départements, principalement dans l'est de la France. Le pays est aujourd'hui en état d'alerte face à la menace, vous le savez, de ces deux variants très contagieux du Covid-19. Parmi les nouveaux départements concernés par le couvre-feu à 18h, ça vient d'être confirmé pour le Bas-Rhin, le Cher, l'Allier et la Côte d'Or. Nous sommes en ligne avec François Sauvadet, le président du conseil départemental de Côte d'Or. Bonjour Monsieur Sauvadet, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors la décision vient de tomber, est-ce que c'est une bonne décision selon vous? Vous vous y attendiez?
Bon d'abord c'est pas une surprise parce que dès vendredi matin j'avais annoncé que le département de la Côte d'Or passerait en vigilance renforcée, en couvre-feu renforcé. Bon, on a un taux d'incidence qui a beaucoup grimpé à Dijon, on est la troisième ville la plus impactée après... Nice et puis Nancy, donc on s'attendait à cette décision. Moi, ce que je regrette simplement, c'est qu'on décrète un couvre-feu sur tout le département. Moi, Dijon, c'est 3,5% du territoire départemental. Donc on va imposer un couvre-feu que je peux comprendre à Dijon, à pratiquement 675 communes de mon département qui a un taux d'incidence beaucoup plus faible en milieu rural. Donc moi, ce que je demande au gouvernement, c'est de travailler avec nous, les départements, pour qu'on puisse définir les zones sur lesquelles on interviendra beaucoup plus massivement parce qu'elles sont à risque.
Donc vous auriez souhaité discuter avec le gouvernement pour que, par exemple, uniquement Dijon soit concerné par ce couvre-feu de 18h et pas les campagnes?
Mais bien sûr, parce que le niveau d'acceptabilité d'un couvre-feu qui va avoir des conséquences sur le commerce, sur la vie, il est directement lié à la perception de la pandémie. Donc quand vous avez des mesures qui sont massives comme ça à l'échelle d'un département, ça suscite de l'incompréhension.
D'ailleurs, vous avez eu des retours de ces commerçants, des premiers retours?
J'ai déjà des premiers retours, bien sûr. Ils m'ont dit c'est un coup de massue. Et puis imaginez la vie des gens dans le monde rural. Enfin, il n'y a pas un niveau de pandémie très important dans mon département en territoire rural. Mmh. On va imposer un couvre-feu à des gens qui sortent du boulot à 17h, qui prennent la voiture pour aller chercher leur enfant, pour aller au pain, etc. On fait des kilomètres et ça prend du temps. Mmh. On leur impose de rentrer à 18h. Enfin, je ne sais pas si les gens qui prennent des décisions prennent des décisions parce qu'ils circulent à vélo. Mais dans le milieu rural, on a besoin de sa voiture et c'est du temps.
Mais vous comprenez que la France est en état d'alerte et qu'il faille protéger contre l'arrivée notamment de ces deux variants très contagieux.
Bien sûr, on est extrêmement vigilant. D'ailleurs, je propose au gouvernement de travailler davantage avec les conseils départementaux qui sont en charge des personnes âgées et du médico-social. Et je lui suggère d'accélérer la vaccination dans les zones les plus denses, parce que c'est là que le risque est le plus fort.
Vous avez une idée, François Sauvadet, du temps durant lequel vous allez être soumis à ce couvre-feu dès 18h?
Bon, pour l'instant, on est parti pour à peu près 3 semaines. Bon, on verra selon l'évolution. Mais en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment, on cible les interventions de l'État en matière notamment de vaccination sur les zones à risque et sur, je demande au gouvernement. Donc moi, je comprends les mesures qui sont prises. Je ne les conteste pas. C'est son rôle au gouvernement de les prendre et de protéger les Français. Mais pour l'adaptation, pour le fait de rendre toutes ces mesures efficaces et éviter les bugs, il faut travailler avec les conseils départementaux. Les personnes âgées, c'est notre mission. Moi, c'est tout juste si on m'a posé des questions pour savoir comment on pouvait organiser les systèmes de vaccination des personnes âgées. On marche sur la tête.
Merci, merci François Sauvadet. Première réaction du président du conseil départemental de Côte d'Or, alors que justement, on vient d'apprendre à l'instant que la Côte d'Or est concernée par ce nouveau couvre-feu dès 18h. Merci François Sauvadet. Côté vaccination, justement, vous en parliez, malgré des débuts poussifs, 36 000 personnes ont été vaccinées hier. À ce jour, ce sont donc 80 000 personnes qui ont reçu une première injection en France. Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert hier également à l'utilisation d'un deuxième vaccin, celui de l'entreprise américaine Moderna. À la une également, cela fait 18 ans, jour pour jour, que la petite Estelle Mouzin a disparu. Comme chaque année à cette date, une marche silencieuse est organisée en sa mémoire et pour soutenir sa famille. C'est une année particulière car en mars dernier, pour la première fois, Michel Fourniret a reconnu avoir tué Estelle. Ce matin, Éric Mouzin, le père de la petite fille, était l'invité de Stéphane Carpentier dans la matinale week-end. Malgré les doutes, une enquête pas entièrement résolue, la vie continue, écoutez.
J'ai toujours expliqué que ce qui était important, c'était la vie et pas se retrouver projeté dans la mort. Toute la famille a continué à vivre. Bien sûr, cet événement est là. L'absence d'Estelle est palpable, mais pas tout le temps. Vous savez, on a quatre enfants avec leur vie quotidienne, le travail, les relations amoureuses, les découvertes et tout. La vie ne s'est pas arrêtée parce que Michel Fourniret a décidé d'enlever une petite fille à Guermantes.
Michel Fourniret a demandé, il vous a demandé à plusieurs reprises une rencontre, une discussion de pair à pair. Vous n'avez jamais donné suite, vous avez toujours refusé.
Parce que on ne peut pas se préparer à rencontrer un être avec ce niveau de mal absolu, sans y laisser des plumes. Et je n'ai pas besoin de me faire instrumentaliser ou détruire par ce pervers et lui apporter une nouvelle satisfaction. Il a fait suffisamment de mal pour ne pas lui offrir un plaisir supplémentaire.
Éric Mouzin, le père d'Estelle, un document RTL à découvrir dans son intégralité sur rtl.fr. Je rappelle que la marche débutera à 15h à Guermantes. Catherine Pancol, j'imagine que c'est une histoire qui vous touche beaucoup depuis 18 ans hein, qu'on la suit.
Oui, c'est horrible et je trouve que la réaction de Fourniret qui veut parler de père à père, mais c'est d'une perversité terrible, parce que d'un coup, il lui renvoie la responsabilité de décider s'il va parler avec lui ou pas, alors que lui est à l'origine du mal, et c'est un monstre, cet homme est un monstre. Je trouve ça très très pervers, de père à père, c'est surtout ce terme-là, quoi. Parce qu'il l'a quand même atteint, le père d'Estelle, il l'a atteint dans son cœur de père. Et lui veut parler à cet homme qui l'a massacré, quoi. C'est terrifiant, quoi. Il lui donne un premier coup et après il veut le tenir à sa merci. On a cette impression-là.
Et justement, c'est touchant parce que c'est ce rôle de père, justement, on l'entend, qui fait tenir.
Exactement,
Éric Mouzin
avec les quatre autres enfants qui restent et tout. Mais ça, c'est vraiment typique du pervers. Hein. Il arrive à vous mettre dans une situation où, heureusement qu'il est fort, cet homme, hein, parce que ça peut complètement déséquilibrer de cette proposition.
Une grande résilience, en tout cas.
Ouais, parce que du coup, il peut le faire culpabiliser. Vous n'avez pas voulu me parler, alors pourquoi vous ne voulez pas me parler? Je suis quelqu'un comme tout le monde. Enfin, c'est horrible. Je trouve ça pervers.
Elle a eu également le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, bientôt devant la justice. Une information judiciaire pour prise illégale d'intérêt va être ouverte à son encontre. Des plaintes, qui sont donc recevables, ont été déposées par l'association Anticor et par trois syndicats de magistrats. Ces derniers accusent le ministre de la Justice de conflits d'intérêts liés à ses anciennes activités d'avocat, notamment dans l'affaire des écoutes, le fameux dossier Paul Bismuth lié à Nicolas Sarkozy. Éric Dupond-Moretti ne s'est pas encore exprimé sur ce dossier, mais affirme ne pas craindre cette plainte si elle devait prospérer. Dans un instant, on part aux États-Unis, un pays que vous connaissez bien, Catherine Pancol, vous avez vécu plusieurs années, et le président Trump qui est plus isolé que jamais à quelques jours de quitter la Maison Blanche. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Catherine Pancol et Ophélie Meunier.
La suite de l'actualité, cela fait 4 ans que l'on vit au rythme des tweets de Donald Trump. À quelques jours de quitter la Maison Blanche, le président américain est plus isolé que jamais. Alors que des violences ont endeuillé le Capitole et ébranlé l'Amérique, Donald Trump se trouve potentiellement sous le coup d'une nouvelle procédure de destitution et il a été privé de son canal de communication préféré, Twitter. Son compte personnel a été suspendu de manière permanente et il ne pourra donc plus utiliser le compte de la présidence américaine d'ici quelques jours. Donald Trump a dénoncé un musellement de la liberté d'expression. Catherine Pancol, vous qui avez vécu plusieurs années aux États-Unis
et qui retourne souvent,
ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Amérique?
Mais c'est fou parce que l'autre soir, quand on a appris donc que le Capitole était envahi, tout de suite j'ai sauté sur CNN pour. Mais on se disait, il y a plus de différence entre la réalité et la fiction, parce qu'on a vu, c'est un cauchemar, mais c'est un cauchemar qui se passait et qui était comme dans les feuilletons, quoi, comme dans 24 heures chrono, où il y a plein de, et puis de films où il y a cette situation-là, et tout d'un coup là, c'est comme il a tellement brouillé la réalité, cet homme, il a tellement menti sur tout qu'il y a même plus de réalité. On savait pas si c'était pour de vrai ou pas.
Là, il a été lui-même été dépassé par son jeu de la communication. Enfin,
c'est-à-dire qu'il s'est pris les pieds parce qu'il est comme il ment tout le temps, un mensonge remplace l'autre. Je pense qu'il est fou là. Et moi, j'ai beaucoup de copains américains qui m'envoient tous les petits films qui sortent sur lui. Où on est obligé de porter son bureau pour le faire sortir de la Maison Blanche. Il continue à dire mais c'est moi le président. Enfin, le mec est devenu fou.
Vous allez suivre, j'imagine, le moment où il va quitter son siège.
Ouais.
Du foot avec un week-end important en Ligue 1. C'est la 19e journée, la moitié du championnat qui ferme la phase aller de la saison. On saura ce week-end qui est le champion d'automne. Pas moins de 10 matchs à l'affiche ce soir, tous programmés à 21h. Dijon-Marseille, Metz-Nice, Rennes-Lyon ou encore Paris-Brest. Un multiplex à vivre à partir de 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro et Xavier Domergue. Voilà une histoire, Catherine Pancol, digne d'un roman. Au Mans, dans la Sarthe, Kamel et Chahira sont les heureux parents de 3 enfants. Jusque-là, tout est normal. Mais ils sont nés tous les 3 le 6 janvier avec 2 ans d'écart. Il y a donc Inès, née le 6 janvier 2017, Anis, née le 6 janvier 2019 et Enzo, arrivé le 6 janvier 2021. C'est quand même dingue.
Gauthier pas la même heure quand même.
Non, pas, je crois pas. Gauthier Delon-Bugard a rencontré le papa de cette triplette exceptionnelle.
La fille, elle est née le 6 janvier 2017. Le petit, il est né le 6 janvier 2019. Et le troisième, le 6 janvier 2021. Ils sont tous nés dans la journée de l'Épiphanie. Comme par hasard, c'est le destin. D'après mes recherches, je pense qu'il y a eu 3 cas dans le monde. Un cas en Angleterre, un cas dans les pays scandinaves, et un cas en France. Et là, c'est le 4e cas, mais c'est les enfants uniques dans le monde. Et le médecin, il a dit que c'était le destin, c'était un coup de bol, voilà. Faire l'anniversaire le même jour, pour les 3, ça va coûter cher. Hein. Et je pense qu'ils n'ont plus le droit de faire un gâteau. Le 6 janvier, pour eux, ça sera toujours la galette du roi.
Et en plus, le 6 janvier. Kamel au micro RTL de Gauthier Delon-Bugard. De 2021, on fait un bond dans les années 70. Catherine Pancol, votre dernier livre, Eugène et moi, c'est une partie de vos aventures avec votre ami Eugène. Quand vous aviez 20 ans, tout ce que vous racontez est vrai, absolument pas romancé. Pour se mettre dans l'ambiance, au début du livre, vous êtes à Paris et là, vous prenez un billet direction Mexico. Vous avez décidé de fuir un homme qui vous fait trop pleurer. Et là, à l'aéroport, vous rencontrez Eugène, que vous ne lâcherez plus du voyage et avec laquelle vous allez vivre de sacrées péripéties, hôtels, casinos et drôles de rencontres. Alors ça vous a fait quoi de vous plonger dans un monde tellement différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui?
Oui, parce que Eugène est une fille. Hein.
Oui.
Ouais, il faut dire qu'Eugène est une fille. Bah, c'est-à-dire que... on est en plein confinement, je vois passer un texte sur Insta, une photo avec un petit texte d'Eugène. Eugène, c'est ma copine depuis très très longtemps, mais je la vois jamais parce qu'elle voyage tout le temps.
Ouais.
Elle a la bougeotte et elle me téléphone toujours des aéroports, des gares, d'une station d'autobus en Nebraska, en me disant « Ah, j'ai oublié de te raconter ça, mais j'ai vu ça. » Elle est photographe et là, tout d'un coup, elle était coincée en France. Et on a commencé à s'appeler tous les soirs et on se rappelait, on se dit « Mais tu te rappelles, quand on avait 20 ans, ce voyage au Mexique ?» Et on a revécu en se marrant le voyage au Mexique. Et j'ai parlé de ce voyage à Anne Boudard, qui est une jeune illustratrice dont j'adore les dessins.
Et vous pouvez découvrir ses dessins à l'intérieur du livre.
Voilà.
Pour ceux qui nous regardent sur RTL.fr. Voilà, par exemple, une page avec le dessin.
Qui fait des dessins très, très drôles, très colorés et que j'aime beaucoup, avec un trait très précis que j'aime beaucoup. Et Anne, elle a commencé à m'envoyer des petits dessins pour illustrer ce que je lui racontais. J'ai mis tout ça sur Instagram, ça a très très bien marché. Et voilà, et donc on est reparti avec Eugène dans nos souvenirs. On s'est rencontrés en 1974 dans un aéroport. Et j'avais eu une fixette sur cette fille parce qu'elle se repassait les cheveux. Elle a des cheveux roux, très très abondants et ondulés. Elle se repassait les cheveux avec un fer à repasser.
Vous le racontez dès le début du livre.
Oui, c'est comme ça que je me suis dit, je veux savoir qui c'est. Parce que quand quelqu'un fait un truc comme ça dans un aéroport, c'est qu'elle se fiche complètement du regard des autres. Ouais. Donc, elle avait 20 ans, donc ça veut dire qu'elle est déjà totalement libre. Elle partait au Mexique, elle avait un gros sac de voyage dans lequel elle mettait son fer à repasser, d'ailleurs. Et je me suis dit, mais qui est cette fille de 20 ans qui sait déjà très bien qui elle est, qui n'a peur de personne et qui doit se défendre avec... Parce qu'en fait, elle se défendait aussi avec son fer à repasser. Quand on l'ennuyait, elle sortait son fer. Et j'ai été fascinée, c'est comme si j'avais rencontré Scarlett O'Hara. Vous voyez, qui est cette personne qui a fait...
Elle était OK, Eugène, avec l'idée que vous fassiez un livre sur cette histoire quand vous lui en avez parlé.
Je l'aurais pas fait sans elle.
Elle a dit oui tout de suite.
Oui, parce qu'on a trop ri. On a ri. Et du reste, ça se sent dans le livre. C'est des cavalcades effrénées parce qu'il nous arrivait tellement d'histoires. À chaque fois, on s'en sortait, mais quand même, on a vraiment joué avec le danger.
Eugène, c'est devenu une vraie amie.
Ouais.
Vous dites, c'est l'amie dont on rêve tous, celle qui fait en sorte que vous alliez mieux, à qui vous n'avez pas besoin de plaire. C'est donc ça votre définition de l'amitié, Catherine Pancol? C'est quelqu'un finalement à qui on n'a pas besoin de plaire?
Exactement, c'est quelqu'un qui vous prend dans tous les états, qui vous prend avec un gros bouton sur le nez, avec un gros chagrin, complètement déprimé, ou qui vous aime aussi quand vous êtes superbe, drôle, intéressante, et que tout le monde est autour de vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime pour vous, quoi, pour un petit noyau à l'intérieur qu'on a tous et qui fait qu'on est soi. Vous êtes Ophélie, moi je suis Catherine, et ça c'est indestructible. Et vous voyez, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la vie, c'est ce petit noyau qu'on doit rendre indestructible. C'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je défends avec Frédéric Mars, qui viendra tout à l'heure, les femmes battues, parce qu'il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher à ce petit noyau indestructible. Et une amitié féminine qui dure comme ça depuis 40 ans avec Eugène, et qui continue à être très vivante, parce qu'on n'est pas du tout à boire des thés, en mangeant des gâteaux, on continue là, on devait repartir aux États-Unis en voyage pour être au moment de la passation de pouvoir.
C'est sympa aussi de boire des thés avec des petits gâteaux.
Oui, c'est sympa, mais il y a toujours une espèce d'énergie qui circule. Voilà, il y a des gens qui vous donnent de l'énergie et des gens qui, au contraire, vous privent d'énergie. Et moi, j'aime bien avoir des amis qui me donnent de l'énergie ou de l'amour, de la tendresse. Mais vous voyez, tout ça pour alimenter ce petit moteur qu'on a tous au fond de nous.
Eugène aussi vous a aidé à vous trouver. On va en parler dans un instant. Allez, le sujet, un des sujets, puisqu'il y a vous aussi, de ce nouveau livre de Catherine Pancol, Eugène et moi, restez avec nous. À tout de suite sur RTL.
Journal inattendu de Catherine Pancol
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Je disais donc que Eugène fait partie des personnes qui vous ont aidé à vous connaître, à vous construire. Vous dites, page 140, par exemple, dans le livre « J'ai besoin d'une boussole pour trouver le Nord, suis trop à l'Ouest ». Ou encore, page 183, « On met tellement de temps à se trouver ». Ce samedi 9 janvier 2021, est-ce que vous pouvez dire, Catherine Pancol, que vous vous êtes trouvée, enfin?
Ah oui, je me suis trouvée, heureusement. Non, je me suis trouvée, mais c'est du boulot, c'est beaucoup de travail. Parce que ce que me disait Eugène, parce qu'on a tout ce problème-là. En plus, quand on est une fille, je pense que les garçons naissent avec une identité. Les filles doivent trouver leur place et leur identité, même si c'est beaucoup, beaucoup plus facile maintenant. Mais quand même, c'est du boulot. Et Eugène, ce qui me fascinait chez elle, et ce qui me fascine toujours, parce qu'elle est toujours pareille, c'est son absence de considération pour ce que les gens pensent d'elle. Et quand elle me disait... Toi, tu veux plaire à tout le monde et tu te perds. Moi, je veux me plaire à moi et je prospère. Elle avait raison.
Elle a raison, Eugène, de vous dire que vous voulez plaire à tout le monde.
Quand j'avais 20 ans, oui. Ouais. Je tombais amoureuse tous les quarts d'heure. Je cherchais quelqu'un. Je voulais plaire parce que je me disais, si je plais à celui-là ou à celle-là, je suis quelqu'un, j'existe. Alors que non, il faut se plaire à soi. Mais c'est pareil pour l'écriture, c'est pareil pour tous les métiers qu'on fait avec ses tripes, qui sont des métiers de création. C'est qu'il faut trouver sa place. Et à partir du moment où on a trouvé sa place, on arrive à faire avancer le schmilblick et à faire avancer sa vie. Mais si on passe son temps à dégager de l'énergie pour plaire à tout le monde, on plaît à personne, mais pas à soi-même.
Vous parlez du regard des autres. Vous êtes un des plus gros phénomènes d'édition de ces dernières années. Des millions d'exemplaires vendus en France. D'abord, comment vous vivez ce succès aujourd'hui? Et quel regard vous avez sur ceux qui encore aujourd'hui disent, et vous n'êtes pas la seule parmi les gros phénomènes d'édition, qui disent que votre plume est légère?
Oui, mais moi je suis très contente d'avoir une plume légère, parce que je dis des choses graves avec une plume légère, parce que Eugène et moi, C'est ça, c'est
on va en parler aussi.
Ouais, c'est aussi ça, c'est que
ou Bad Bug qui mon livre là, qui sort des fléaux de notre société.
Ouais, c'est ça. C'est que je raconte des choses qui arrivent à tout le monde en fait. D'une manière mais ça c'est ma formation anglo-saxonne, d'une manière légère parce que la forme est très importante. Il n'y a pas de pathos, mais si vous creusez, c'est très important ce que je dis derrière, justement sur le sort des femmes, sur la liberté, sur la pourquoi c'est toujours le plus fort qui écrase le plus faible. Enfin, c'est on revient toujours à ces thèmes-là qui moi me m'importent beaucoup. Alors après, évidemment. Je vous dis, je pense que j'ai pas une formation française, moi. J'ai beaucoup habité aux États-Unis, j'ai beaucoup écrit aux États-Unis, j'ai beaucoup été nourrie par les films américains, par ces scénarios d'Hollywood qui sont quand même très structurés
Très chartés.
Et je trouve que la vie leur ressemble de plus en plus, de toute façon. Mais en même temps, j'adore lire Proust. Moi, mon idole absolue, c'est Balzac. Mais Balzac était aussi un feuilletoniste. Il était mal considéré. C'est un peu le problème français. Quand vous pensez que Gide a dit Victor Hugo, le plus grand poète de la littérature française, hélas, je veux dire, écrivez comme Victor Hugo, on en reparlera. Vous voyez, mais ça, c'est le côté un peu français, intello, élite, qui est en train de partir, là, qui se débine.
Il paraît que vous avez une fâcheuse tendance à réécrire les contes de fées.
Oui.
Quand votre fille était enfant et que vous lui lisiez un conte de fées, la princesse trouvait d'abord du boulot avant de trouver son prince charmant.
Oui, absolument. La fin de La Belle au bois dormant me mettait dans un état de colère terrible parce que le prince arrive, il l'embrasse, et pouf, il l'épouse, il ne demande rien du tout. Et donc j'avais réécrit pour ma petite fille qu'elle lui répondait « Je vais d'abord passer mon bac, je vais trouver un boulot et après, si je veux, on se mariera et si je veux, on aura des enfants. »
Vous vous retrouvez dans les féministes d'aujourd'hui, Femen, Mouvement MeToo, Adèle Haenel qui quitte les Césars en pleine cérémonie. Est-ce que c'est votre féminisme aussi?
C'est-à-dire que je me retrouve dans leurs intentions, ça c'est sûr, parce que je trouve qu'il y a un boulot énorme à faire et qui n'est toujours pas fait. Enfin, qui est en train de se faire, parce que c'est quand même plus facile maintenant. Mais je ne me retrouve pas. Moi, je suis quelqu'un... J'adore l'harmonie, vous savez. J'aime bien quand les choses sont belles et sont pesées et sont équilibrées. Et je ne me retrouve pas dans les gestes de violence, parce que je n'aime pas la violence. Je suis allergique à la violence.
Dans un instant, le rappel des titres, votre météo et votre invitée qui nous rejoint, Frédérique Martz, cofondatrice de l'association Women Safe, pour parler de vos combats et de vos engagements, Catherine Pancol. A tout de suite sur RTL. Il est 13h sur RTL.
Le journal inattendu de Catherine Pancol.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Dans sa lutte contre la propagation du Covid-19 et notamment de ces deux variants du virus inquiétant et plus contagieux, le gouvernement prévoit d'étendre le nombre de départements soumis à un couvre-feu dès 18h. C'est d'ailleurs confirmé pour le Bas-Rhin, le Cher, l'Allier ou encore la Côte d'Or. L'annonce devrait tomber dans les prochaines heures pour une partie de la région PACA. Dans ce contexte, la vaccination s'accélère en France. On a atteint hier les 80 000 vaccinés depuis le début de la campagne. Et à ce sujet, il y a quelques minutes, Jean Castex a pris la parole au centre hospitalier Bigorre à Tarbes, où il était en visite avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. L'objectif, suivre le processus de vaccination. Et le Premier ministre l'affirme, il est fait avec sérieux et rigueur.
Bon, nous avons pu constater avec le ministre que les choses se passent normalement et comme nous l'avons prévu. Les choses se font, je tiens à le dire, d'abord de façon très sérieuse. Nous voulons aller vite, nous voulons d'abord faire les choses dans la sécurité et dans le sérieux. Il faut que nous soyons collectivement très crédibles, très organisés, et apporter toutes les garanties qu'une vaccination, ce n'est pas un acte anodin, suppose. Et ce que je sais des remontées dans l'ensemble du territoire, qui se confirme ici à Tarbes, montre que c'est bien comme ça que ça se passe.
Jean Castex au micro RTL de Patrick Tégéraud à Tarbes. Nos voisins anglais, eux, font face à une situation extrêmement alarmante. Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe. Depuis mercredi, toute l'Angleterre est soumise à un confinement strict. Les hôpitaux n'ont plus de place pour accueillir les malades. Les personnels soignants espèrent une amélioration de la situation très rapidement. Chaque année, ce 9 janvier est marqué par le souvenir de la disparition de la petite Estelle Mouzin. En mars dernier, pour la première fois, Michel Fourniret a reconnu reconnu avoir tué la petite fille. L'enquête sur son enlèvement et sur sa mort devrait prendre fin dans quelques mois. Un combat de 18 ans dont nous a parlé avec beaucoup d'émotion Éric Mouzin, le papa d'Estelle. Il était ce matin l'invité de Stéphane Carpentier, un document RTL exceptionnel à découvrir en intégralité sur rtl.fr. Et puis, gros week-end de foot, 10 affiches à suivre ce soir pour la 19e journée de Ligue 1. Dijon-Marseille, Bordeaux-Lorient, Montpellier-Nantes ou encore Reims-Saint-Etienne. Rendez-vous à partir de 20h dans RTL Foot pour vivre tous ces matchs en direct sur notre antenne et découvrir le champion d'automne. Et puis la météo, à 13h, c'est avec notre invité. Et donc, c'est la météo de Catherine Pancol qu'elle a réécrite déjà en quelques minutes. Voilà, ça c'est une romancière et une écrivain à côté de moi.
Alors, une météo froide, mais ensoleillée sur la moitié nord du pays cet après-midi. Grand soleil en Normandie. Les nuages s'étaleront au sud de la Loire avec des flocons sur les Pyrénées, des averses entre le Pays Basque et les Pyrénées orientales, mais très beau temps à Fécamp. On attend en revanche beaucoup de pluie et beaucoup de neige en Corse tout au long de l'après-midi et même des risques d'avalanche. Les températures varieront de 0 à 11 degrés entre l'Auvergne et la Méditerranée. Il fera 4 degrés à Paris, à Nantes, à Toulouse et 18 degrés à Fécamp.
Alors, Eugène, pas Eugène, pardon, Catherine, évidemment, aime beaucoup Fécamp et la Normandie, oui. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, je ne suis pas sûre que toutes ces informations soient vérifiées.
Mais il va faire très très beau.
Voilà, elles appartiennent à Catherine Pancol. Il y a dans Eugène et moi, raconté au milieu de péripéties drôles et un peu loufoques, on le disait, un fléau de notre société qui touche particulièrement les femmes, ce sont les violences conjugales. Vous avez sauvé votre ami Eugène des griffes d'un homme violent. Vous dites, page 184 de votre livre, tomber sur un sale type, ça peut arriver à toutes les femmes. Aujourd'hui, Catherine Pancol, vous avez choisi de recevoir Frédéric Martz, cofondatrice de l'association Women Safe. Bonjour Frédéric, bienvenue. Vous confirmez, Frédéric Martz, tomber sur un homme violent, ça peut vraiment arriver à toutes les femmes de tous âges, de toute catégorie sociale, de toute éducation?
Alors c'est une question effectivement qui est extrêmement précieuse pour nous. Oui, on peut confirmer que les violences sont très très présentes dans la société. C'est en fait pour moi un fléau indigne de la civilisation. C'est pour moi comme une pandémie un peu invisible pour laquelle on n'a pas encore trouvé le vaccin. Et c'est pour ça qu'en fait Catherine qui nous a rejoint donne un sens à ce que nous devons faire, parce que un ami m'a envoyé il y a quelques jours une petite phrase qui m'a beaucoup plu et qui parlera beaucoup à Catherine. C'est Victor Hugo qui disait « Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe ni mauvais homme, il n'y a que des mauvais agriculteurs. »
Vous avez, Frédéric, embarqué Catherine dans un établissement scolaire, dans une classe de 4e. Vous avez fait faire un exercice aux élèves pour les sensibiliser aux violences conjugales et au harcèlement scolaire. Racontez-nous cette expérience, toutes les deux.
Ah, c'était formidable, parce qu'on a pris une classe, ils devaient être 30-31, ils avaient 13-14 ans. Et vous savez, ce qu'il y a de formidable avec les mots, c'est que vous ne pouvez pas les maîtriser tout le temps. D'où le lapsus et tout ça. Et donc, on a demandé à ces élèves d'écrire. Et pour avec Frédéric, on voulait justement... Moi, je pense que les violences envers les femmes, si on apprend aux petits garçons à respecter la femme et à respecter la force qu'il peut avoir en lui pour en faire quelque chose de bien, on a déjà fait un grand pas. Donc, on a pris... C'était une classe mixte. Et moi, j'ai donné 3 sujets à ces petits garçons et filles, enfin, ces petits 14 ans, en leur disant la première phrase, et ils avaient 2 pages à écrire. Alors là, il y avait des sujets complètement un peu loufoques. Ce matin, en allant à l'école, j'ai croisé un monsieur qui tenait un chameau jaune dans ses bras. Alors après, il fallait qu'il continue. Et il y en avait une qui disait, hier soir, j'étais sur mon balcon et la dame du 7e étage, je l'ai entendue qui... Et alors là, c'est un sujet qui a été quand même beaucoup choisi. Et là, ils ont raconté tout ce qu'ils voyaient ou chez eux, ou chez les voisins, ou dans leur bar d'immeuble. C'était en banlieue, donc c'était... Et ils racontaient qu'ils entendaient des femmes pleurer, ils entendaient des cris, après ils voyaient plus la femme dans l'ascenseur ou l'escalier, et il y avait toute l'inquiétude de ces enfants et les interrogations qui passaient dans les mots. Et le premier cours, ça a été très très émouvant, parce qu'ils n'arrivaient pas à dire, et il y avait un petit garçon qui c'est évident, était d'une famille qui fonctionnait pas, et il voulait parler de sa mère, et il n'y arrivait pas, et il disait putain merde bébé, je vais y arriver. Et il lui a fallu le deuxième cours pour que ça commence à se mettre en mots. Et à la fin, le troisième cours, on a senti qu'il se dépliait. Et c'est là où je me dis que l'écriture, ça sert aussi à ça. Ça sert à identifier une douleur avec des mots. Et je suis sûre que ça les a fait avancer. Alors, on a été interrompus par le Covid. Mais c'est sûrement une expérience qu'on recommencera avec Frédéric.
Vous souhaitez reprendre ces ateliers, j'imagine,
absolument,
dans les établissements.
Ce que Catherine disait, et qui me paraît évident, c'est qu'en fait, l'écriture permet de sortir de l'invisibilité. Et c'est vrai que le fait d'hésiter à pouvoir dire, les écrire, c'est ce que nous faisons beaucoup avec les femmes que nous recevons chez nous, c'est leur demander d'élaborer les choses. Et ces enfants ont rencontré Catherine, et je pense que moi-même, j'ai été personnellement extrêmement émue, parce que Catherine, c'est quelqu'un que je lisais. Je crois que Catherine n'a pas raconté comment on s'est rencontrés, mais en fait, on n'est pas allé la chercher, c'est elle qui est venue vers nous. Et je trouve que cette démarche, elle est dans une humilité totale. Elle est venue frapper à notre porte en disant, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux vous aider? Alors, imaginez ce cadeau qu'elle nous faisait, puisque moi, je la lisais assidûment et avec passion, et elle nous offrait cet espace, et cet espace, en fait, qui nous permettait de développer cette notion qui est très fortement inscrite chez les femmes victimes de violences, c'est cette incapacité à penser qu'elles peuvent faire, ou qu'elles peuvent écrire, ou qu'elles peuvent penser même.
Parler.
Et parler. Et Catherine, en fait, offre ce que nous voulons offrir, en fait. C'est cette notion de graine que l'on sème aujourd'hui. Catherine, le fait qu'elle nous accompagne vers les jeunes, ces enfants qui ne réfléchissent plus, qui sont un peu guidés dans leur réflexion par l'Internet, etc. D'un seul coup, ils se sont retrouvés face à une feuille blanche. Et puis, à cet imaginaire que Catherine a transporté, enfin, moi, j'ai assisté à ses cours, c'est une manière de donner, en fait, de donner le témoin de comment on peut se raconter. Et elle le dit tellement bien, elle dit on va créer un héros ensemble, ça sera votre héros, c'est pas nécessairement vous. Et cette manière d'expliquer de manière tellement pédagogique, elle donnait envie d'écrire et de dire et de dénoncer des choses que les enfants ne peuvent pas toujours dire, malheureusement.
Pour ceux qui nous écoutent, quelle est la meilleure réaction à avoir si jamais, alors si on est victime de violence, évidemment en parler, mais si on est témoin, si on est comme l'a été Catherine pour son ami Eugène, témoin d'une amie ou d'un proche qui est victime de violence, est-ce que la meilleure réaction, c'est comme Catherine, aider à tout prix la personne à s'échapper, à fuir? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Évidemment, c'est ce que l'on aimerait conseiller, mais on peut aussi mal conseiller quand on est témoin. Et donc, il vaut mieux, évidemment, se tourner vers des professionnels assez rapidement. L'idée, c'est de ne pas être indifférent. Je pense que l'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire dans cette société. Je pense que aujourd'hui, l'indifférence fait peur. Enfin, fait peur à la victime qui se remet et qui perdure dans son statut de victime. Le fait qu'on ait ouvert aux enfants depuis 2017 me fait vraiment dire que c'est vraiment cette graine-là qu'il faut faire pousser de manière à ce qu'elle puisse se dévoiler le plus rapidement possible. Ne pas rester dans la violence. Ne pas accepter la violence. Et on dit bien qu'un témoin aujourd'hui et lui-même devient une victime, en fait. Et l'autre chose que je voudrais dire, on ne nie ni auteur ni victime, donc il faut effectivement prendre le mal à la racine.
Rappelez-nous, Frédéric Martz, comment contacter Women Safe en cas de besoin?
Alors, on a un site internet, c'est www.women avec un E, -safe.org, et un numéro de téléphone 01 39 10 85 35.
Merci d'être venu, Frédéric Martz. C'était votre invitée, Catherine Pancol.
Oui, parce que ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle fait un travail énorme tout le temps, qu'elle dort avec ça, qu'elle vit avec ça, qu'elle se lève avec ça, et que Women Safe est vraiment... c'est un endroit qui accueille les gens, qui les soigne. Il y a un chirurgien qui répare les femmes, il y a des psychologues, il y a des infirmières, et tout ça, elle l'a fait toute seule. Donc, bravo.
Un lieu exceptionnel et utile. Merci Frédéric Martz. Dans un instant, on part à la rencontre de quelqu'un qui, suite à la crise sanitaire, a décidé de changer de vie, de se lancer dans un projet solidaire et éco-responsable. Ah. Un peu de positif dans cette morosité ambiante. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL avec Catherine Pancol et Ophélie Meunier.
Sunny Afternoon, des Kinks, une de vos chansons préférées.
Oui. C'est un grand groupe, les Kinks, pas assez connu, je trouve.
En dehors de vos moments d'écriture, je sais que vous écoutez beaucoup de musique, ça, mais aussi de la musique classique. Vous faites de la gym, vous cuisinez, et d'ailleurs, alors cette semaine, vous avez publié sur votre compte Instagram, alors là, il va falloir m'expliquer, au milieu plutôt de vos livres, hein, ouais. Une recette de mousse au chocolat bonne pour la santé. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est très facile, un petit peu, comme vous dites, de beurre salé avec 2 barres de chocolat, 2 blancs d'œufs battus, vous mélangez ça et c'est hyper bon. D'ailleurs, qu'en pense Cyril Lignac?
Ça, c'est un truc que j'adore, j'ai envie que les auditeurs le fassent eux-mêmes.
D'où vous est venue cette envie, cette idée de publier une recette comme ça?
Mais parce que c'était le moment de Noël, que j'avais trop mangé tout, j'avais quand même envie de quelque chose de sucré. Et je me dis non, tu peux pas. Et j'avais entendu Cyril Lignac d'ailleurs sur RTL
tous les matins
disait,
sur RTL,
oui, qui disait que ce qui faisait grossir dans l'œuf, c'était le jaune d'œuf. Donc j'ai viré le jaune d'œuf, j'ai mis vraiment une noisette de beurre, du chocolat noir, mais c'est très très bon, elle est très légère cette mousse au chocolat et je pense qu'il doit y avoir 32 calories.
Alors pour tous ceux que ça intéresse, c'est sur le compte Instagram de Catherine Pancol. Au milieu de cette crise sans fin que nous vivons depuis bientôt un an, il y a des personnes qui restent définitivement optimistes, qui continuent à essayer de changer le monde à leur niveau. Élodie Contino fait partie de ces personnes-là. À la sortie du premier confinement, elle a décidé de changer de vie et de lancer sa petite entreprise, Rosea Léa, grâce à un financement participatif. Son idée, créer des meubles design éco-responsables fabriqués en France à partir de chutes industrielles qui sont revalorisées et transformées. Yannick Collant est allé à sa rencontre en Alsace. Catherine Pancol, c'est votre reportage inattendu.
Oui, rendez-vous dans un atelier d'ébéniste à Strasbourg. Élodie Contino et son designer Thibaut Becker sont venus chercher des pièces en bois pour une nouvelle création.
Ouais, c'est pour une console avec le même bois et en plus un ajout d'une récupération de simili-cuir, ouais, qu'on récupère dans une usine textile, des fins de rouleau, des fins de stock plus utilisées.
Et ces fins de rouleau, ces chutes de cuir, comment vous faites? Vous appelez toutes les entreprises du coin pour leur demander ce que vous avez?
Ils me regardent moi parce que c'est mon truc. Ouais, littéralement, c'est un peu ça en fait. J'ai un peu l'impression de leur dire bonjour, vous voulez bien montrer vos poubelles ou bonjour, vous voulez bien montrer vos caves, vos greniers. Moi, j'ai travaillé voilà, pendant 5 ans dans l'industrie textile. C'est en voyant tous ces gisements que je me suis dit, on a déjà plein de choses sous la main. Donc autant les réutiliser et en faire quelque chose de beau. Après, moi, là, à l'heure actuelle, comment dire? Bon, voilà, je suis enceinte. j'ai quand même cette volonté de pouvoir dire à mes enfants, on a vu le mur, mais j'ai quand même tenté quelque chose.
En tout cas, la démarche a tout de suite séduit Sébastien Kuhn, l'ébéniste.
C'est vachement important, c'est-à-dire qu'on revient à des procédés que nos ancêtres, nos aïeux utilisaient. Et en même temps, aujourd'hui, c'est innovant. Parce qu'effectivement, on a moins de déchets. En ébénisterie, les déchets, c'est à peu près 30% de la matière première. Si on arrive à recycler ça, c'est magnifique, je veux dire.
Il faut que ce soit beau. Et que de prime abord, quand ils voient nos pièces, ils se disent d'abord « Ah, c'est super beau, je le veux !» Plutôt que de se dire « Bon, je cherche quelque chose de plutôt écologique. » Non, c'est pas... On sait tous très bien que dans nos intérieurs, surtout là, après l'année qu'on a passé à vivre à l'intérieur, on a besoin d'être entouré de jolies choses.
C'est le cas, par exemple, de ce coussin en velours rouge, immédiatement reconnaissable, celui des fauteuils de cinéma, un tissu abandonné dans une ancienne usine textile des Vosges. Le rembourrage, c'est aussi de la récup alsacienne, des milliers de petits fils de chaussettes labonales. Et à ce propos, Élodie Contino a une petite question pour notre invité.
Bonjour Madame Pancol. Il me semble que vous avez parlé de Dominique Malfait de Labonal dans l'un de vos livres. Donc chiche de parler de Rosea Léa dans l'un de vos ouvrages.
Mais alors quand vous voulez, Élodie, quand vous voulez. Alors on va échanger, je vais demander votre téléphone ou votre site ou whatever et on va se mettre en contact.
Eh bien génial.
Et vous allez devenir une héroïne de livre.
On va faire le lien avec... plaisir, on est ravis d'avoir initié ça. Vous aimez les personnalités comme ça, comme Élodie, qui sont positives, qui trouvent
exactement
toujours la bonne petite idée.
Je supporte pas les gens qui se plaignent, je supporte pas. C'est comme si le bonheur était obligatoire et dès que l'actualité faisait un petit pas de côté ou un grand pas, parce qu'en ce moment on est plutôt dans un grand pas, tout le monde s'écroule. Je ne supporte pas les gens qui vous présentent les vœux en disant « Ah, j'espère que ça sera mieux que l'année précédente. » Arrêtez, quoi, arrêtez,
non,
ça
moi
va
je dis mieux. Ça,
ah, vous dites ça. Ah oui. Non, il ne faut pas.
Je vais
non.
changer de discours.
Non, parce que du coup, on envoie du négatif. C'est toujours pareil, quoi. On se plaint. Je trouve qu'on a de la chance.
Donc
de
là,
vivre.
C'est quoi le bon mot pour l'année 2021?
Bonne année, bonne année, bonne année. Du bonheur, du bonheur, du bonheur.
Vous avez un point commun avec les auditeurs d'RTL. C'est Benjamin Biolay. Vous adorez le titre « Comment est à peine ?» Et le dernier album de Benjamin Biolay est justement l'album RTL de l'année. Alors, on se fait plaisir.
C'est l'album du confinement.
La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas.
qu'on apprenne.
C'était l'album du confinement, l'album de Benjamin Biolay.
Comment est ta peine ?
Dans un instant, une petite surprise pour vous. Et vous laisserez un message à une personne de votre choix. A tout de suite sur RTL avec Catherine Pancol.
Le journal inattendu de Catherine Pancol avec Ophélie Meunier sur RTL.
Vous aimez le rock, Catherine Pancol, oui. Vous adorez les vieilles canailles.
Oui, j'adore les vieilles canailles, j'adorais Johnny. Ouais. C'était mon idole.
On vous avait promis une petite surprise. Oui. On voulait avoir en ligne quelqu'un qui vous ferait très plaisir, déjà, mais aussi quelqu'un qui vous connaît très très bien et qui allait nous permettre de découvrir des choses de vous qu'on ne connaît pas forcément. On a trouvé la personne idéale pour ça, je crois. Bonjour Pierre Lescure.
Ah. Oui, bonjour Ophélie, bonjour Catherine.
Bonjour Pierre.
Merci d'être avec nous Pierre, vous avez à tous les deux partagé plusieurs années de vie commune. Ouais. Si je vous fais écouter à tous les deux cette musique. C'est la musique d'Autant en emporte le vent. Alors j'imagine, Pierre, que ça vous rappelle des souvenirs et notamment un certain voyage aux États-Unis en 1976 avec Catherine. Racontez-nous.
Catherine, comme vous le comprenez, c'est presque une référence absolue. Autant en emporte le vent et Scarlett. D'ailleurs, elle a utilisé Scarlett pour un des plus beaux titres de ses plus beaux romans. Et donc, notre premier voyage aux États-Unis, Catherine me dit, on va évidemment aller à Savannah. On va passer par New York, mais la direction, c'est Savannah. Savannah, Géorgie. Et en 76, puisqu'on parle beaucoup des élections présidentielles américaines, c'était Gerald Ford contre un Géorgien pas très connu, cultivant des cacahuètes, qui était Jimmy Carter. Et Catherine bossait pas mal avec Match. Moi, j'étais sur une radio. Et on avait demandé à nos patrons respectifs, ça vous intéresse qu'on fasse des trucs pendant qu'on sera là-bas? Et on nous avait dit, non, c'est joué, c'est Gerald Ford, etc. Donc on faisait un voyage d'amoureux, on se baladait, on était à Savannah, le magnifique cimetière de Savannah avec des saules pleureurs à tomber. Catherine était chez elle, si j'ose dire, c'était Scarlett Pancol. Et puis d'un seul coup, les sondages quelques jours avant le vote se retournent. Et là, Match et ma radio nous ont appelés. On a bossé comme des dingues. Et Catherine, qui aujourd'hui propose des histoires merveilleuses à ses lectrices et lecteurs depuis quelques années, à l'époque, elle a fait 6 pages sur l'élection de Carter. Elle a vu sa mère, femme, Rosalie, etc. C'était magnifique. Voilà.
Mais tu te rappelles, Pierre, on était même dans la suite de Carter quand il a été élu président. On était avec lui dans l'hôtel. Dans sa suite. Parce que moi, on était des petits reporters français. Ils nous avaient laissé passer, c'était pas grave. Et on était avec la grand-mère qui bouffait le gâteau avec les bougies, Jimmy ses pieds plats, Rosaline sa petite robe en nylon bleu ciel. Et à un moment, la porte s'est ouverte, les gardes sont arrivés, il était élu président, ils nous ont virés comme des malpropres. Tu te rappelles? C'était incroyable.
Donc voilà, Catherine, c'est aussi quelqu'un qui est capable, en plein voyage amoureux, de pondre 6 pages pour un match sur le nouveau président.
Et Pierre, il avait fait des flashs tous les 10 minutes. Il était au pied de l'estrade, Et Pierre est allé faire pipi à la Maison Blanche après. Parce qu'on avait eu des contacts. Il est allé dans les toilettes. On a été invité après à Washington et il a fait pipi dans les...
Ah, il y a des urinoirs dont on se souvient.
Oui, c'est un détail qui m'a marqué.
Pierre, je sais que vous avez lu Eugène et moi et d'ailleurs, vous connaissez bien, vous, Eugène. Alors, est-ce que celle du livre est bien fidèle à la vraie? Est-ce que la relation entre Eugène et Catherine est bien celle qu'elle raconte dans le livre?
C'est quelque chose qui m'a frappé, jeune homme, de voir Béatrice, Eugène et Catherine, parce que pour moi, mec qui avait beaucoup travaillé avec des jeunes gens qui étaient surtout dans ces années 70, il y avait les copains mecs, et puis d'un seul coup, je me rendais compte de la profondeur, de la richesse, de la diversité, de l'amitié entre deux femmes qui avaient la même envie d'indépendance et de vie pleine et libre, même avec des amours. Et de les voir toutes deux, ça m'a appris énormément de trucs, tellement elles étaient complices, Eugène et Catherine.
C'est bon.
Et je les ai retrouvées dans le bouquin, c'est ça qui est magnifique.
Ouais.
Pierre, vous êtes président du Festival de Cannes. Juste en un mot, vous avez dit il y a quelques mois que vous croyez dur comme fer en la tenue de l'édition 2021. C'est toujours le cas ?
Ah oui, c'est plus que du fer, c'est du granit. Simplement, on ne sait pas encore avec Thierry Frémaux si ce sera en mai. Il ne faudrait pas que ce soit juste dans la foulée de contraintes encore trop lourdes et que ce soit la première sortie qu'on n'ait pas le temps de faire majestueuse et luxuriante, exubérante. Donc s'il faut retarder en juin ou juillet, on le fera. On a déjà vu ça avec David Lisnard, le maire de Cannes. Mais ça aura lieu.
Merci Pierre Lescure, on vous retrouve tous les soirs dans
Merci
C'est à vous sur France 5 aux côtés
d'Elisabeth
Lemoine. Merci pour ce petit moment, à bientôt. Catherine Pancol, vous allez laisser le premier message de 2021 à la personne de votre choix. Si vous avez une demande à faire passer, un message à faire passer, c'est le moment, vous avez carte blanche. Alors à qui avez-vous choisi de laisser un message ?
Alors moi je voudrais laisser un message à Kamala Harris, parce qu'elle a une sacrée tâche à accomplir et un sacré défi, parce que ça va être ça va pas être une vice-présidente potiche.
Donc Kamala Harris, prochaine
qui est la vice-présidente des États-Unis et qui va donc travailler avec Joe Biden. Et c'est un personnage passionnant parce que elle est à la fois femme, ok, métisse, ok, féministe, travailleuse. Elle était maire d'une ville. En Californie, donc, donc c'est quelqu'un qui existe, qui vient du terrain, qui vient de la politique, qui quand même a suffisamment futé pour s'être fait bien remarquer, bien noter, pour que Joe Biden se dise c'est celle-là que je vais prendre, parce qu'il y en avait plusieurs de femmes, et maintenant elle va être confrontée à une Amérique qui est complètement, totalement divisée. Vraiment, parce que c'est 50-50, hein, faut être honnête. Et il a quand même ses partisans, Trump, même si on ne l'aime pas beaucoup en Europe, mais il a ses partisans. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que lors de cette fameuse nuit où le Capitole a été envahi, mes copines américaines m'envoyaient des messages en disant « Il faut sortir Kamala, protéger Kamala. » Parce qu'elles qui vivent là-bas savaient qu'elle peut être menacée par toute cette partie de l'Amérique qui est quand même, redneck, quoi, qui a des valeurs, la femme à la maison, la femme on la tabasse, la femme... Il y a quand même un truc, quand on sort des grandes villes américaines, et moi ça m'est arrivé souvent parce que j'ai fait beaucoup de reportages quand j'étais aux États-Unis, et qu'on va dans cette région centrale de l'Amérique, il y a quand même ce qu'on appelle les rednecks, c'est-à-dire des types qui ne sont pas très raffinés. Il y a beaucoup de mouvements anti-femmes, il y a beaucoup de mouvements antisémites, anti-noirs, anti tout ce qui est différent d'eux. Quoi.
Donc
elle va avoir un sacré boulot à faire.
Ce que va faire Kamala.
Et il va falloir qu'elle soit bien protégée. Et je pense que Biden va lui laisser la main parce que ça a l'air d'être quand même un type bien.
Merci beaucoup Catherine
Merci
Pancol.
Merci.
Eugène et moi aux éditions Albin Michel et puis aussi Bedbug en livre de poche. Tout de suite, c'est Jean-Alphonse Richard, la 100e numéro exceptionnel de Confidentiel consacré à Tom Cruise. La semaine prochaine, mon invité exceptionnel lui aussi, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus. Je vous souhaite le meilleur pour 2021.
Bonne année, du bonheur, du bonheur.
À samedi
du
prochain, 12h30.
Le journal inattendu sur RTL.